secretos de tu alma.
Les racines du ciel, une émission de Lily Anvar avec la participation de Frédéric Lenoir, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Thierry Beauchamp, avec aujourd'hui à la prise de son Pierre Monteil. Bonjour Zeno Bianou.
Bonjour.
C'est un vrai bonheur de recevoir aujourd'hui aux Racines du Ciel un poète, un vrai, un poète en chair et en os, un poète en voix, un poète depuis toujours, au moins depuis l'âge de 10 ans, quand vous dévoriez tous les livres, comme vous dites, et que le mot « Providence », rencontré au détour d'une page de Robinson Crusoe, vous a révélé votre vocation. Vous écrivez « Tout ce que j'allais devenir, tout ce que j'allais aimer, tout ce que j'allais écrire, un seul mot me l'offrait, au cœur d'un chuchotement décisif ». Alors à lire la quatrième de couverture de votre dernier ouvrage paru, qui s'intitule « Satori Express » et qui a été publié au Castor Astral, vous êtes signataire du manifeste électrique dans les années 70 et l'auteur d'une œuvre multiforme, alors c'est là où je ne suis plus d'accord, qui interroge la poésie, le théâtre, le jazz et l'Orient. J'ai envie de dire, vous êtes un poète sur tous les plans, à la fois quand vous composez de la poésie, du théâtre, quand vous faites de la musique avec des jazzmen ou que vous évoquez cet Orient qui vous est cher. Je ne pense pas qu'on puisse séparer, je veux dire, la poésie de vos autres activités. Vos poèmes ont été publiés chez de nombreuses maisons d'édition plus prestigieuses les unes que les autres, Gallimard, Fata Morgana, Actes Sud. Et je me suis basée pour préparer cette émission sur les deux derniers, comme je viens de le dire, donc qui viennent de paraître, Satori Express paru au Castor Astral et Infiniment proche, suivi de Le désespoir n'existe pas, paru chez Gallimard, en Poésie Gallimard. Je signale que c'est une réédition, en fait, d'œuvres que vous aviez publiées auparavant.
Une réédition revue et augmentée.
Avec une très très belle introduction, oui. Il faut dire. Donc, voilà, je ne vais pas citer la longue liste de tout ce que vous avez fait, mais ce qui m'a beaucoup intéressée dans votre trajectoire, c'est que vous êtes, comme je le disais, un poète au sens plein du terme. C'est-à-dire, au fond, tout ce que vous faites, tous les arts auxquels vous vous intéressez, et on voit à travers votre poésie que vous vous intéressez à tous les arts, sans aucune exclusive, je dirais, eh bien, vous les abordez avec un regard poétique. Et peut-être que, pour vous définir, le mieux serait non pas de lire la quatrième de couverture d'un livre qui expose quelque chose d'un peu trop linéaire pour un poète, mais peut-être la première page de Satori Express, dans lequel vous expliquez, au fond, ce que vous avez toujours voulu faire. J'ai toujours voulu tout accueillir, tout aimer, tout faire vivre, d'un seul regard démultiplié, m'accorder à ma ligne de haute tension, par-delà la fatigue, par-delà l'épuisement, tout accueillir, tout, aimer, aller plus avant, vers les grands creusets de l'effervescence, ne jamais en finir avec l'infini, doter chaque instant d'une présence authentique, dernier souffle, premier souffle. Alors Zeno Bianou, c'était quoi votre premier souffle ?
Le premier souffle, c'est d'abord les romans initiatiques, tout ce qui est venu avant la découverte de la poésie proprement dit. Et quand je parle de romans initiatiques, j'entends aussi bien le Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, que Conrad, que London, et que bien d'autres. La façon dont j'abordais ça était déjà une sorte de phase d'apprentissage pour moi. Et puis est venue la poésie. La poésie comme genre littéraire, bien entendu, notamment avec Rimbaud. Rimbaud qui demandait tout d'un coup l'éternité sur le champ. Alors, je me suis dit, tiens, là il y a quelque chose de plus, c'est pour moi ça. Donc Rimbaud qui portait ailleurs et qui tout d'un coup dépassait la poésie pour par excès du poème, par une énergie qui me fascinait et qu'on appelle poésie, et c'est celle dont on commençait à parler tout à l'heure, de parler tout à l'heure. Je me souviens de Cocteau. Je me souviens de Cocteau, la façon dont il vénérait la poésie, tant et si bien que lorsqu'il parlait de n'importe quel de ses ouvrages, qu'il fût filmique, poétique, théâtral, il employait ce mot. Dans ses listes de livres, on trouvait poésie de roman, poésie de théâtre, poésie de cinéma. Et je pense que là, il a mis l'accent sur une chose essentielle. Donc, pour les poètes, la poésie est au centre de tout. Mais évidemment, les noms changent, comme vous le disiez tout à l'heure, mais la source demeure, heureusement, mais elle peut se décliner, comme l'éveil, elle peut se décliner de mille façons différentes. C'est pour ça que je tiens à avoir des espèces comme ça de piliers de reconnaissance qui sont, pas ma marque de fabrique, n'exagérons pas, mais ma singularité au milieu d'autres recherches.
Alors cette poésie dont vous parlez, comment vous la définiriez? C'est-à-dire, puisqu'on dit que ça, la poésie, ça peut être aussi bien, on peut la trouver aussi bien dans les romans initiatiques, au fond, finalement, peut-être la vie même de Rimbaud est une sorte d'écho de ces romans initiatiques dont vous parlez. Donc, quelle serait votre définition? Au fond, vous dites, ce qui m'intéresse, c'est la poésie. J'ai envie de vous dire, c'est quoi la poésie?
C'est un surcroît de présence au monde. Et la poésie comme genre littéraire ne présente aucun intérêt si elle ne conduit pas à cette poésie qui excède le poème, à cette poésie qui est une forme de perception différente du monde, une façon d'habiter la vie autrement, d'habiter le temps autrement, et même parfois d'habiter la lumière. Pour moi, donc, cette poésie-là, c'est ce qui sous-tend, au fond, la vraie poésie, et par un jeu de ping-pong continuel, on joue avec ce qui est proprement poétique littéraire et ce qui est poétique de la vie. Je songe encore à Rimbaud, à Sensation, le poème qu'il a écrit à 16 ans. À 16 ans. Je ne marcherai plus, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme. Bon. Donc là, on a cette espèce de balancement entre la vie même, la meilleure façon de l'exprimer, qui est pour moi la poésie, au sens où Leopardi parle de la poésie comme le plus haut état de la langue. Et ce qui me fait ricocher, moi, tout de suite, en disant, évidemment, elle est le plus haut état de la langue parce qu'elle est peut-être le plus haut état de la vie. Mmh. Et alors là, la poésie reprend sens, on peut la redéfinir ou sortir, au contraire, de toutes les définitions, mais elle reprend sens comme énergie vivante.
Oui, et donc, vous avez parlé depuis le début, en évoquant Rimbaud, d'éternité, vous avez parlé d'infini. C'est vrai que l'un de vos recueils de poésie, qui est donc republié chez Poésie Gallimard, s'appelle « L'infiniment proche ». Est-ce que c'est pas aussi cela? C'est-à-dire, c'est ce qui est à la fois infiniment lointain et infiniment déjà là, déjà donné, mais qu'il faut quand même chercher. Et en ce sens, ça rapproche beaucoup de la spiritualité. C'est-à-dire que la poésie, c'est peut-être presque la même chose que l'expérience spirituelle.
Pour moi, c'est deux domaines qui se sont très souvent rencontré. Quand j'ai découvert le haïku, par exemple, le haïku condensé d'une façon magistrale, ces deux tropismes que j'avais, l'un pour la poésie, l'autre pour la spiritualité. Quand je me suis intéressé en Inde au mantra, au fonctionnement des mantras, à cet univers de la parole, à cet univers même composé et conçu par la parole, n'existant que par la parole, au sens où ce sont les noms qui nomment les choses pour le coup et qui les font exister. Donc il y a toute cette dimension-là qui porte à faire dans une sorte de rejoignance, qui porte à rejoindre et poésie et spiritualité, en tout cas dans mon cheminement.
Oui, c'est évident, en vous lisant, en fait, on sent...
Dans les anthologies que j'ai faites aussi.
Enfin, oui, absolument, voilà. On sent que ces ponts sont permanents. Mais peut-être, puisque vous avez parlé d'Orient, pouvons-nous avancer un peu dans votre biographie? Donc ça a commencé avec les romans d'initiation, presque des récits de voyage, au fond, que vous avez, et après de là vous êtes passé au voyage poétique, et puis vous avez aussi fait des voyages réels vers l'Orient.
Oui, oui.
D'une certaine façon, vous êtes devenu le héros, voilà, le héros de votre propre roman initiatique, d'une certaine façon. Alors racontez-nous votre rencontre avec l'Orient et l'importance que ça a eu pour vous. Quand vous parlez de souffle, au fond, c'est peut-être, on pourrait dire que ça, c'est le deuxième souffle, après le premier souffle de vos lectures.
C'est le second souffle. C'est d'une certaine manière, c'est la littérature, je veux dire, la grande littérature qui me conduit dans ces pays-là. Bon, Plus jeune, j'avais déjà une passion pour Kipling, mais mon intérêt pour Domal et les poètes du grand jeu, et un texte fabuleux de Domal sur la musique indienne, musicienne du silence, dans Bharata, me pousse, me donne l'envie d'aller en Inde. Mais bon, je ne vais pas en Inde pour suivre un gourou, non, je vais en Inde pour en faire mon miel. Un miel doux et rugueux, mais un miel quand même. Et pour, j'y vais en tant que poète. Mm. Je n'y vais pas en tant que dévot, si je puis dire. C'est donc, c'est un point important à préciser. C'est-à-dire, l'Inde, il y a une phrase magnifique de Jung sur l'Inde, où il parle d'un pays de l'onirisme pur, en fait, où la réalité est toujours flottante. Et c'est ce qui vraiment a pu me nourrir et a pu m'apporter un surcroît, là encore, de méditation, de réflexion, d'avancer dans mon propre parcours.
Oui, alors quand vous dites méditation, c'est-à-dire que l'Inde, c'est une terre, évidemment, c'est peut-être encore plus un air que l'on respire.
Oui.
Mais c'est un ciel. Voilà, c'est un ciel. Et vous avez donc ce rapport à la terre indienne qui est réel et que vous avez un très beau poème justement consacré à.
Et à l'eau indienne.
Exactement, au Gange dans Satori Express. Peut-être qu'on en lira peut-être tout à l'heure un extrait. Mais l'Inde, c'est donc aussi la découverte de certaines pratiques en fait du souffle, puisque vous avez parlé de mantra tout à l'heure, vous avez parlé de méditation, vous êtes entré dans ces pratiques méditatives indiennes.
Oui, mais de façon, j'allais dire, plus pragmatique, au sens où j'ai travaillé la musique indienne et le chant et le sitar à cette époque, enfin pour m'initier d'ailleurs, parce que et pour voir comment ça fonctionnait, et toujours en rapport avec ce souffle qui m'habite, cette rythmique, cette pulsation, tout ce jeu fertile entre le son et le sens, d'utiliser le son pour amplifier le sens, enfin, c'est ça que j'ai trouvé. Donc, il y a une phrase magnifique de Breton, d'André Breton, interrogé un jour, et qui confiait, j'ai trop de Nord en moi, de Nord, N-O-R-D, pour une seule adhésion. Et c'est toujours cette idée quand même d'éviter de rester dans sa marge en soi avec sa singularité.
Sri Vakratunda Mahakaya Koti Surya Samaprabha Nirvighnam Kuru Me Deva Shubhakaryeshu Sarvada Sri Vakratunda Mahakaya Koti Surya Samaprabha Nirvighnam Kuru Me Deva Shubhakaryeshu Sarvada Sri Vakratunda Mahakaya Koti Surya Samaprabha Nirvighnam Kuru Me Deva Shubhakaryeshu Sarvada Sri Vakratunda Mahakaya Koti Surya Samaprabha Nirvighnam Kuru Me Deva Shubhakaryeshu Sarvada
Thank you. तस्मै श्री गुरवे नमः।
Oui, donc c'est intéressant que vous parliez de ça, parce que j'allais vous dire, ce poème que vous avez écrit sur le Gange, c'est aussi c'est à la fois une célébration de cette
célébration, c'est très important.
Voilà, célébration de cette eau, de cette femme, puisque
elle, oui, absolument.
Le Gange est une déesse, et donc c'est aussi une expérience. Quand je vous ai lu, j'ai senti vraiment que c'était une expérience de l'altérité. Alors, vous me pardonnerez d'avoir choisi de lire juste quelques extraits, parce que c'est un poème assez long, de ce passage où la Ganga s'exprime à la première personne. Bon, j'ai choisi ce passage où je me suis dit qu'avec une voix de femme, c'était quand même plus adapté. Je suis femme, femme fleuve, femme fluide. Je suis la vie qui passe, la femme qui passe, la vie, la mort, aller, retour, orient, occident. Je suis la source et je suis le delta, flamme, fleuve. Femme, fleuve, folie, je suis le proche et le lointain, mon cœur ondule, j'ai goûté l'infini comme un vin de géant, je suis femme, je cascade à corps perdu, tourbillon, séisme, révolution, je lave et je submerge, j'offre des ailes aux nuages, des lotus à la foudre, venir naître, courir, mourir, je suis la voix de l'eau. Femme, 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 flamme, frissonnement, trempée d'eau, trempée de feu, je parle à ceux qui savent me déchiffrer. Je sais la force des bûchers. Et je suis obligée de m'arrêter là, parce que sinon on passerait toute l'émission à lire des poèmes, ce qui serait d'ailleurs peut-être un bon choix, au fond, pour quand on reçoit un poète. Mais ce qui m'a beaucoup touchée dans cet extrait, c'est que vous commencez par célébrer cette Ganga, puis vous lui donnez la parole. Et je me suis dit, en vous lisant, c'est peut-être aussi ça, la poésie. Très souvent, vous donnez la parole à l'autre, que ce soit les poètes que vous avez aimés, les musiciens, que ce soit la Ganga, que ce soit une autre, un autre.
C'est un jeu de métamorphose continuelle pour moi. Et en fait, c'est un pur délice, comme un dieu qui crée ses mondes, ou comme Vishnu qui respire les galaxies entre deux respirations. L'idée, c'est, d'une certaine manière, de ne rien écrire qui ne soit pas irisé par quelque chose de l'ordre de l'expérience. Et l'expérience, c'est aussi, pour moi, entrer en possession des gens que j'aime. Marina Tsvetaeva, la grande poétesse russe, dit quelque part « Quand on aime quelque chose, on s'en empare ». Ça, c'est une phrase qui m'a souvent guidé. Et, par exemple, pour les musiciens de jazz, pour Coltrane notamment et pour Chet Baker, j'ai tenté comme ça des exercices de possession, l'idée d'écrire à la première personne, c'est-à-dire de passer un peu, d'entrer dans la peau de gens que j'ai beaucoup admirés, c'est aussi une façon pour moi de réactiver des mythes, mais des mythes au sens fort, pas des archétypes, pas des stéréotypes. Et c'est aussi une façon pour moi de réactiver des icônes dont le concours est précieux pour, j'allais dire, pour notre vie quotidienne. Parce que quand Chet Baker, par exemple, tombe d'un hôtel d'Amsterdam dans une sorte de chute comme ça infinie, on n'a plus besoin de parler d'Icare, on peut parler de Chet Baker. Et quand Hendrix entame un long solo dédié à Martin Luther King, on n'a pas besoin de parler d'Orphée, on peut parler d'Hendrix. Donc il y a une sorte de réactivation des mythes qui fait partie de ce travail de métamorphose dont on parlait tout à l'heure, et ce jeu de miroir infini et qui est le fait de profiter au plus haut point de ce que les Indiens appellent Maya, c'est-à-dire l'illusion, mais l'illusion dans laquelle nous vivons comme dans la réalité d'un rêve. Et donc il y a toute cette dimension-là qui, je l'espère, fait palpiter ce que j'écris.
Oui, je vous rassure, ça fait tout à fait palpiter ce que vous écrivez, mais je dirais que Maya est presque toile de fond. Il y a cette tentative quand même de déchirer le voile de Maya par le verbe. il me semble que vous portez très haut le travail poétique, non pas comme un exercice ornemental, d'ailleurs René de Mal a de très belles pages sur cette question-là, mais dans un vraiment... pour vous, c'est un travail sur vous-même, évidemment, mais c'est aussi un travail sur la mémoire, quel lapsus, sur la matière du monde, pour déchirer ce voile des illusions et de Maya, et d'entrer au cœur de quelque chose qui est au-delà de nos illusions de forme, bien que la poésie ait besoin de forme. Mais c'est
exactement,
le paradoxe.
Exactement, c'est ce jeu continuel, et cette idée de retourner quand même la tapisserie pour voir la trame. Mais il faut la tapisserie pour voir la trame. C'est ça qui est passionnant.
Oui, et il faut les mots, il faut la forme.
Il faut les mots. À moins de rester, ce que je ne sais pas faire du tout, reclus ou perclus même dans une grotte himalayenne.
Oui, c'est-à-dire que peut-être que le mot de poète mystique est presque un oxymore, puisque si on est un vrai mystique, peut-être qu'il ne faut pas revenir.
Oui.
Vous ne vous considérez pas comme un poète mystique?
Alain Borer, dans sa préface, m'appelle poète nucléaire. Oui. Je préfère.
Oui. Pourquoi il dit poète nucléaire, d'ailleurs?
Je crois que parce qu'il y a ce jeu entre continuité et discontinuité, entre intégration et désintégration, qui est passionnant pour un artiste. C'est-à-dire, on n'est pas simplement d'un côté, comme ça, où ça serait effectivement une sorte de paresse. Soit du côté de quelqu'un qui veut en finir avec les formes et qui veut faire table rase.
Oui.
Mais en généralement, dans une mémoire trop faible pour ça, soit quelqu'un qui se dit « il faut suivre la tradition, parce que la tradition, c'est solide, c'est bon. »
Il n'y a que ça de bon.
Il n'y a que ça de bon, je vais arriver quelque part. Non. Heureusement, il y a une troisième voie.
Oui, oui. Finalement, la poésie, au sens contemporain du terme, ne peut choisir que cette troisième voie. On peut
absolument
ni être, on peut plus
absolument
faire de sonnet à la Baudelaire et on ne peut pas non plus s'arrêter comme Rimbaud.
Si on surpasse Baudelaire, oui.
Ça paraît difficile. Alors, on a vu, vous avez voyagé en Inde, vous vous êtes laissé prendre, au fond, par ce pays. On voit que, aussi, certaines musiques, vous avez parlé du jazz, on va y revenir, certains êtres, certaines icônes, vous ont aussi traversé comme cela. Et ce qui me frappe, c'est que souvent, ces figures qui vous traversent sont des figures, sinon tragiques, au moins fragiles. Je pense à Marilyn, qui revient, comme ça, de manière récurrente dans votre œuvre. Est-ce que pour être poète, il faut aussi être douloureusement ouvert à ce qui vient? Est-ce que ça ne fait pas trop mal?
Non, mais je crois que la mélancolie est aussi un miel et elle est aussi une énergie. Donc, rien n'est pensable sans la mélancolie. Rien n'est pensable non plus sans une vraie coïncidence des opposés. Donc, joie et mélancolie, bien sûr, qui alternent. Et puisque nous parlions tout à l'heure du grand jeu, le grand jeu, ce n'est rien d'autre que ça. Et d'ailleurs, dans son binôme majeur, Daumal et Gilbert Lecomte...
Oui, peut-être on en a parlé la semaine dernière, mais reprécisons ce qu'est le grand jeu.
Le grand jeu, donc c'est un groupe qui s'est organisé en marge du surréalisme dans les années 20-30, avec pour planète principale, je vais dire, René de Mal et Roger Gilbert Lecomte, deux immenses écrivains qui ne sont pas assez reconnus, malgré le travail d'ailleurs personnel que j'ai pu faire sur eux en faisant une anthologie des poètes du grand jeu en poésie Gallimard,
voilà,
et une autre anthologie de Roger Gilbert Lecomte, pour encore renverser la donne de la perception poétique du XXe siècle. Donc, il y a ces deux, il y a ces deux binômes, et il y a à la fois la rage de Dada, la rage de la révolte, enfin, tout ce qui a pu me passionner dans mes jeunes années, et qui quand même continue de brûler parfois en moi, et l'ouverture à l'Orient. Alors évidemment, c'est ça qui m'a fasciné. Parce que je découvrais les surréalistes, je découvrais Artaud, et tout d'un coup, je voyais ces petits bonhommes là-bas à Reims, si j'ose dire, qui parlaient d'Orient, et qui parlaient d'Orient à une époque où on ne trouvait pas 150 livres de méditation tibétaine dans n'importe quelle librairie.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'avec des choses récupérées à la bibliothèque locale, tout un rêve, Daumal apprenant le sanskrit tout seul, voilà. Et René Daumal a écrit ce texte magnifique, Poésie noire, poésie blanche, en se définissant lui-même comme un poète blanc, au sens d'un poète qui ne cherche qu'une seule voie. Et Roger Gilbert Lecomte étant sous-entendu comme un poète noir, c'est-à-dire quelqu'un qui agit aussi par, comme dirait le tantrisme, il y a une phrase célèbre de la Katha Upanishad, l'homme se grandit par les moyens qui normalement devraient le détruire. Donc qui agit par une sorte de voie inverse, bon, jusqu'au malheur d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant dans ce binôme, c'est qu'on a les deux à la fois.
Oui, et en même temps, vous venez de parler justement de ce texte, le poète blanc, poète noir, ça fait référence à la magie blanche et à la magie noire. Ça renvoie à l'idée que la poésie peut être extraordinairement puissante. Elle peut exercer un pouvoir, le verbe peut exercer un pouvoir magique et éventuellement malfaisant. On a vu récemment que Daesh a des poètes qui encouragent les gens à aller se faire
d'exécrables poètes, pour le coup.
Oui, enfin, exécrables, pas si exécrables que ça, puisqu'ils arrivent à induire dans l'autre le désir d'aller se tuer.
Bien entendu, exécrable dans le sens, c'est la force des mots.
Voilà. Donc, est-ce que vous avez déjà éprouvé cela en tant que poète? C'est-à-dire de vous dire, tiens, les mots, ça peut être dangereux.
Bien sûr, et ça peut être d'abord dangereux pour soi, parce que on peut, soit on cultive une sorte de tour d'ivoire dans un repli continuel et dans une mégalomanie quasi planétaire, parce que les deux vont ensemble, soit on cherche sans cesse à se remettre en question, ce qui a toujours été mon énergie motrice, c'est-à-dire, comme disait un Koan Zen, qui s'arrête se tue. Donc c'est plutôt l'idée de faire tourner. Vous avez parlé tout à l'heure de constellation. Ça, voilà un mot qui me plaît. C'est-à-dire qu'il est, il est étincelant d'abord, et il fait jouer quand même toute cet extraordinaire univers. Dans toutes ces merveilles, dans toutes ces possibilités, dans toute son irisation.
Oui, et j'ai eu le sentiment aussi que c'est peut-être pour ça que vous vous êtes si intensément intéressé aux autres poésies que la vôtre.
Pour moi, c'est une question capitale, la question de l'héritage et la question de la transmission. Les choses se perdent à une vitesse exponentielle. Donc je pense que là, on a vraiment un rôle fondamental à jouer en rappelant.
Et c'est ce que vous faites aussi, d'ailleurs, pas qu'avec la poésie, vous le faites aussi avec la musique, puisque vous aimez particulièrement le jazz, et que vous le faites revivre à la fois dans vos écrits, comme on l'a évoqué tout à l'heure, et à la fois dans les spectacles je ne sais pas si
lecture
on peut appeler ça. Les récitals, moi j'aime bien appeler ça comme
ça. On peut appeler ça récital.
Voilà, des récitals musicaux que vous faites, et dans lesquels, précisément, vous essayez de convoquer tous les arts et de faire une sorte de travail de poétique totale.
D'art total.
Voilà, d'art total. Et pour cela, quand même, la musique de prédilection pour vous, c'est le jazz. Vous aimez particulièrement le jazz.
Oui, puisqu'elle permet un espace d'improvisation qui m'envoie, moi, en tant que diseur, comme quand je travaille avec vraiment des comédiens habités par la poésie, comme Denis Lavant ou Robin Renucci, enfin, il y en a beaucoup d'autres, qui m'envoie vers des lieux où je n'irai pas forcément tout seul dans une lecture. Donc il y a une véritable osmose, des mouvements de fusion et qui me portent plus loin.
Alors est-ce que vous nous ferez le plaisir de nous lire un de vos poèmes accompagné de la musique qui lui convient, c'est-à-dire Olé avec la musique de Coltrane?
Olé. Voyez cette écume dorée en expansion continue. Le souffle même de mon jazz, sa très haute teneur en fraternité. Olé. Fièvre électrique, pulsation des atomes et des univers. Entre les chiens du zénith et les loups du nadir, je me révèle, gisant vertical, guetteur d'étoiles filantes portées par la grâce et la mort. Source et passage, ressouvenir d'un cœur arabo-andalou. Duende, bruissant et limpide, ancestralement moderne. Je nage au bord du jour dans le courant de deux basses en orbite solitaire. J'assise l'écorce du temps. Je n'ai plus peur de m'égarer par-delà les au-delà. Olé ! 18 minutes éternelles, transe insoupçonnée, passe mystérieuse pour m'accorder en promesse de feu.
France Culture, Les Racines du Ciel, Lely Onvar.
La poésie joue sur le mouvement des paradoxes et le jazz joue sur le mouvement des paradoxes. Donc ce sont deux mondes qui ne s'interdisent aucune résonance. Ce qui est tellement fascinant dans les poètes de la Beat Generation, qui m'ont aussi influencé à une époque, particulièrement Kerouac, Kerouac faisait de nombreuses lectures avec des saxophonistes et c'est une chose dont j'ai repris le flambeau d'une certaine manière.
Il me semble que ce qui est très important aussi là-dedans, c'est la question du rythme, le fait que le jazz a une sorte de... c'est une sorte de retour lancinant et cyclique. C'est comme si il parlait de la question du retour, en fait, du retour au point d'origine. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? En vous lisant, j'ai eu le sentiment qu'il y avait ce point commun entre votre œuvre et...
Ça. J'ai même forgé le mot de lancinance pour parler de cette espèce de mélodie entêtante. Et tout d'un coup, le jazz permet de toucher ce là qui vibre, ce là singulier qui vibre en chacun. Et un peu comme la poésie, il est une clé. Une clé d'ouverture, une clé des songes, une clé des chants, une clé de liberté, une clé de rêve. Et je crois que c'est ce qui parle plus dans cette rencontre entre la poésie et le jazz.
Oui, alors vous avez parlé de là, je suppose que vous vouliez dire là, la note,
oui,
là.
Le là.
Et moi j'avais envie
trouver
de vous dire
son
aussi,
là.
Oui.
Trouver son là.
Et j'avais l'impression, en même temps en vous écoutant, qu'il s'agit aussi de là avec un accent, c'est-à-dire... C'est que ça invite à être en même temps...
C'est un excellent jeu de mots.
Exactement là.
Oui.
Et accueillir l'ailleurs.
Il faut être là pour trouver son là.
Voilà, exactement. Vraiment, en vous écoutant, je pensais à ça parce que c'est un thème aussi qui court dans votre œuvre, c'est-à-dire, ou dans votre travail, peut-être que vous n'aimez pas ce mot dans votre œuvre, dans votre poésie, dans votre trajectoire, voilà. C'est-à-dire, c'est un travail sur un espace-temps très particulier... qui ressemble à l'espace-temps du jazz. Je ne sais pas si
oui,
ma question
absolument.
Est claire.
Bien sûr.
Et donc, le titre infiniment proche résume peut-être un peu cette tentative, en fait, de réconcilier le temps et l'espace.
Par exemple, quand on écoute le grand quartet de Coltrane au début des années 60, on a l'impression que c'est une sorte de nef, mais qui avance vers votre propre intériorité. C'est peut-être une des plus grandes complicités créatrices qu'ait connue le XXe siècle, où, au sens où tout d'un coup, quatre personnes, quatre destins s'affrontent, ricochent. Je songe aussi au splendide travail à la batterie d'Elvin Jones, un des plus grands batteurs du siècle, auquel j'ai consacré aussi un petit livre. Donc tout d'un coup, la pulsation est là. Et quand la pulsation est là, quand le souffle est là, quand le rythme est là, les choses se font. Les choses se font, mais il arrive quelque chose au monde de réel, de tangible. On n'est pas simplement dans l'art décoratif ou voilà. Il y a ceux qui explorent et ceux qui décorent.
Oui, et justement, vous dites en plusieurs endroits dans vos textes que la poésie intéresse de moins en moins le grand public, en tout cas. C'est vrai qu'avant, c'était l'art majeur.
Je ne sais pas si j'ai dit ça.
Vous dites quelque chose du genre la poésie se perd, ou enfin, je devrais retrouver le. je ne le retrouve pas, mais c'est pas grave. Mais par ailleurs, vous parlez aussi d'indigence métaphysique. Je ne peux pas m'empêcher de rapprocher cela au fait qu'il y a aussi une désaffection de l'intérêt pour la musique de jazz chez les jeunes. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a trois désaffections. Mm-hmm. Le jazz, mm-hmm. la poésie, la métaphysique. Est-ce que vous pensez que c'est lié ? Ces trois désaffections
c'est
sont liées.
C'est lié, mais je nuancerai. Parce que, donc, de par mes lectures, je suis confronté à un certain nombre de gens, à un lectorat qui n'atteint pas forcément le seuil de visibilité des grands best-sellers, mais qui est bien réel, qui est bien réel. Vous vous souvenez peut-être de ce mot magnifique de Juan Ramón Jiménez quand il parlait de l'immense minorité. Mmh. Et c'est cette immense minorité sur laquelle nous travaillons. Deuxièmement, je nuancerai le propos sur la perte d'écoute de la poésie et j'apporterai au contraire de l'eau à un paradoxe puissant. Jamais on n'a lu autant de poésie qu'en cette époque. Il faut bien voir que Apollinaire, Alcool, la première année, Apollinaire, il en vend 241.
Alors que maintenant...
Donc maintenant,
il est
en poésie Gallimard, il est à 2 millions d'exemplaires. Mm. Donc, ça veut dire plein de choses qu'on ne va pas forcément analyser, mais il y a toujours ce rêve rétrospectif que Rimbaud ou que l'autre est amant, et alors qu'on sait très bien que la saison en enfer s'est vendue à 5 exemplaires... Ce qui ne veut rien dire, ni dans un sens, ni dans l'autre, mais ce qui implique qu'il y ait toujours un temps d'imprégnation nécessaire pour comprendre la dimension d'un poète. Alors qu'aujourd'hui, avec les collections de poche, on atteint à des chiffres absolument faramineux. Bon, mon anthologie de haïku, mon anthologie du poème court japonais, a dépassé les 100 000 exemplaires. Donc, on est dans des best-sellers secrets.
Oui.
Si j'ose dire. Mm-hmm. Ça, j'aime bien cet oxymoron. qui sont tout à fait surprenants. La façon dont...
C'est littéralement du bouche à oreille, alors.
C'est du très grand bouche à oreille. Mais c'est pour dire qu'existent d'autres seuils de visibilité que les seuils de visibilité imposés par une certaine paresse médiatique.
Oui, ça c'est certain. Et d'ailleurs, il semblerait que,
on
par
parle
exemple,
que de ça,
oui, les sites gratuits de poésie, paraît-il, sont beaucoup plus nombreux que les sites de romans ou quoi que ce soit. C'est incroyable le nombre de gens qui font de la poésie. Ça, c'est peut-être plus sujet à caution, mais en tout cas, qui s'intéressent à la poésie. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais c'est vrai que ce n'est pas, disons, on vous regarde, par exemple les jeunes en particulier, ils ricanent bêtement, ils se sentent un peu embarrassés.
Il y en a, mais pas tous.
Pourquoi cet embarras qui est le même devant la poésie et devant les questions métaphysiques? C'est ça, ce qui m'intéressait surtout là, c'est de faire le point de jonction entre les deux. Il me semble que notre époque nous dit quelque chose de son rapport à la poésie qui relève aussi de son rapport à la métaphysique.
Bien sûr, mais c'est bien difficile de se forger de rejoindre le trésor commun des archétypes dont on parlait tout à l'heure, ce qui nous permet d'avancer vraiment dans quelque chose qui ressemble malgré tout à la vraie vie. C'est difficile quand on a été bombardé par des particules d'écran, de jeux, de tout ce qu'on veut, par le monde des casques et des masques. C'est vraiment difficile de se forger un univers singulier dans tout cela. Et ce qui me fascine le plus, et là c'est peut-être à la fois délicieusement éclatant et un peu inquiétant, c'est que les gens de génération plus jeunes que je rencontrent et qui ont un talent véritable, un talent artistique, ils ne sont pas poètes. C'est-à-dire qu'ils ne réifiaient pas la poésie comme j'ai pu la réifier dans mon adolescence. Ils sont vidéastes, ils sont bassistes, ils sont créateurs de jeux vidéo, mais ils ne sont pas poètes.
Voilà, alors comment vous expliquez ça? En même temps, on a dit tout à l'heure qu'on pouvait être poète en étant vidéaste.
Exactement, exactement.
C'est-à-dire, vous voulez dire la forme.
Bien entendu, ce qui compte, bien entendu, c'est le talent. Et pour parler de l'autre point, je dirais que la métaphysique résiste quand même, quotidiennement.
Ah, c'est vous qui parlez d'indigence métaphysique, c'est pas moi. Hein, c'est, je vous cite. Bien sûr, elle résiste.
Oui, mais c'est, y a aussi l'irritation, les petits coups de colère qui passent dans la langue à certains moments. Mais fondamentalement, je serais plutôt du côté de la bouteille à moitié pleine que de la bouteille à moitié vide.
Forcément, vous avez écrit « Le désespoir n'existe pas », donc vous seriez, il faut que vous soyez en harmonie avec vous-même.
C'est vrai. Mais « Le désespoir n'existe pas » veut dire que la façon de regarder le désespoir peut être différente. Je ne dis pas « La souffrance n'existe pas », je suis prudent. Je ne dis pas « L'ignominie n'existe pas », je ne dis pas « La barbarie n'existe pas », mais je dis « Le désespoir n'existe pas ». Ou comme le disait magnifiquement Walter Benjamin, organiser le pessimisme.
Oui, alors justement, qu'entendez-vous par là ? Je voulais vous interroger là-dessus. C'est vrai que dans les textes qui composent donc ce recueil, Le désespoir n'existe pas, il y a quand même des moments de très profonde mélancolie. Mais la mélancolie n'est pas le désespoir.
Absolument. Mais il y a des épreuves de vie. Cette idée tout à fait poétique et en fait incroyablement risquée. Une fois, j'ai trouvé une phrase comme ça qui résumait ça, je trouve, de façon puissante. C'était quand j'étais en train de perdre ma femme, tout simplement pour mettre les points sur les i, c'était transformer le pire en force d'ascension. C'est-à-dire qu'il y avait toujours cette volonté de faire quelque chose, de lumineux avec tout cela, avec ce karma personnel, avec ce qui me tombait dessus. Donc c'est là que le désespoir n'existe pas. C'est une phrase que j'ai prise au grand Rabbi Nachman, l'un des plus grands mystiques juifs, et qui dit très exactement: prenez garde, le désespoir n'existe pas. Alors, ça, j'adore ce prenez garde.
Oui.
C'est-à-dire, ne vous laissez pas morfondre. Ne vous laissez pas agripper par le soleil noir de la mélancolie.
Oui, et c'est vrai qu'en même temps, la poésie est peut-être une des meilleures armes pour transformer la matière du désespoir en quelque chose de plus haut.
Ah oui, je pense que c'est l'arme décisive, en tout cas pour...
C'est-à-dire, c'est l'arme décisive,
en tant qu'artiste.
Voilà, pour vous en tant qu'artiste, pour vous en tant que poète, mais peut-être aussi pour le lecteur.
Pour le lecteur, je l'entends vraiment dans une espèce de va-et-vient perpétuel.
C'est-à-dire, je crois profondément que la poésie est thérapeutique. Alors, il faut choisir celle qui nous convient. Mais j'ai le souvenir, si je peux raconter cette histoire personnelle, j'avais écrit une chronique dans Le Monde des Religions sur les contemplations de Victor Hugo, qu'il a composée, comme chacun sait, à la suite de la mort de Léopoldine, sa fille. Et j'ai reçu peut-être un des plus beaux courriers que j'ai jamais reçu de tout le courrier que j'ai reçu pour ces chroniques du Monde des Religions. C'est une dame qui me disait: Madame, en lisant votre chronique, j'ai repris les contemplations de Victor Hugo, et comme j'ai perdu ma fille, ça m'a permis de comprendre que je pouvais dépasser cela en lisant les contemplations de Hugo. Je me suis dit, donc finalement, d'abord, ça sert à quelque chose de faire des chroniques. Au moins, ça a permis à une personne d'aller lire les contemplations. Mais surtout, de me dire finalement, ce qui a été une thérapie pour le poète peut aussi devenir une thérapie pour son lecteur. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on écrit, pour aider,
pour atteindre l'autre. Ce mot magnifique de Paul Celan sur la poésie comme main tendue, ça, c'est une chose qui ne m'a jamais quitté. Et il y a cet autre mot d'Artaud qui a beaucoup compté pour moi et qui dit: il n'y a pas de poème sans destinataire. Donc le poème est par essence, pour moi en tout cas, une main tendue.
Alors vous avez parlé d'Artaud, en quoi il a été si important pour vous? C'est vrai qu'un jour il faudrait faire une émission entière sur Artaud, il a été tellement important pour tant de gens, il a tellement changé les perceptions de tant d'artistes qu'il faudrait faire une émission, pour vous au moins,
Je n'ai cessé de le rencontrer, en fait. Quand je me suis intéressé à Van Gogh, il y avait le Van Gogh d'Artaud.
Oui,
quand je me suis
intéressé
au théâtre Baliné, il y avait le texte magnifique sur le théâtre Baliné d'Artaud. Quand je me suis intéressé au Codex Maya ou aux tribus mexicaines comme les Tarahumara ou les Yaqui ou les Huichol, il y avait les textes d'Artaud. Donc, je n'ai cessé de le rencontrer. Et sur ce mode qui m'a tant fasciné, puisque lui disait vraiment vouloir faire du langage une incantation au sens de quelque chose d'immédiatement percutant. Il a cette phrase extraordinaire quand il dit que la poésie, ça doit être comme un steak pommes frites, c'est-à-dire que ça doit avoir une vérité presque grasse, presque épaisse, presque tellement elle est humaine. Donc, rien d'abstrait là-dedans. Évidemment, toute sa réflexion sur le théâtre et ce jeu entre poésie et théâtre, dans lequel je me suis moi aussi un peu immiscé, en travaillant pour le théâtre et en y vérifiant justement la validité des mots en dehors de la page blanche, enfin de la page écrite. Donc, je n'ai cessé de rencontrer Artaud et je lui ai rendu hommage dans un petit livre qui s'appelle « Variation Artaud ». Et c'est quelqu'un qui continue de m'habiter.
Oui, on
de
le
m'habiter,
retrouve,
de...
oui. On le retrouve
et,
sans
et,
cesse.
Et de me sidérer, et de me sidérer.
Alors, vous avez parlé d'incantation. Alors, évidemment, il ne s'agit pas ici de steak frites, mais vous composez aussi de temps en temps, par exemple dans Infiniment Proche, des psaumes. Seriez-vous un peu prophète ?
Je préférais le mot, alors, si cher au poète du grand jeu, de voyant.
Voilà.
De voyant. Mmh. De voyant. Au sens où Allen Ginsberg, donc grand phare de la Beat Generation, dit magnifiquement quelque part « Et voyant celui qui voit ce qui viendra dans 50 ou 100 ans ». Donc ça, on peut avancer que... Il y a une charge prophétique derrière les plus grands poèmes.
Une charge prophétique, et puis aussi, c'est ce que indique le mot psaume, et ce sera ma dernière question en réalité, et donc aussi une forme d'oraison. On a quand même l'impression que quand vous composez un psaume, c'est certain, mais même ailleurs dans votre travail, que ça devient presque une prière, comme la musique de jazz d'ailleurs. Zenobiano.
Oui, je crois qu'il y a. Je suis toujours, habité par le fait que la pensée doit exister et la pensée doit chanter. Et elle ne chante jamais mieux que dans une prière, parce que tout d'un coup, elle redevient une prière, pas évidemment au sens étroit, hein. Pas une prière de demande, une prière d'adoration.
Bien
hein.
sûr. De célébration.
Parce qu'elle redevient ce qu'elle doit toujours être, c'est-à-dire en fait une riposte de l'émerveillement.
Et peut-être aussi un lieu où l'autre advient finalement.
C'est prend
peut-être
toute
à
sa
ça,
place.
Voilà. Ah, peut-être, c'est peut-être à ça que sert la poésie finalement.
Thank you.
Eh bien, merci beaucoup, Zenobiano. Il y aurait eu beaucoup d'autres choses encore à évoquer ou à lire. En tout cas, merci d'être venu aux Racines du Ciel pour partager avec nous cette vie poétique, au fond, qui est la vôtre. Je rappelle le titre de vos deux derniers ouvrages parus, Satori Express au Castor Astral et Infiniment Proche, suivi de Le Désespoir n'existe pas, chez Poésie Gallimard. La semaine prochaine, nous serons en compagnie de Kiran Vyas au centre ayurvédique de Tapovan pour un nouveau volet de notre série des grands témoins. C'était Les Racines du Ciel, une émission de Leïli Anvar. Et nous retrouvons maintenant Frédéric Lenoir pour poursuivre avec lui ses chemins de sagesse.
Il y a un troisième faux ami de la sagesse dont je voudrais parler. Après avoir parlé de l'injonction au bonheur, après avoir parlé du désir mimétique et de la comparaison qui fait qu'on met plutôt le bonheur dans l'avoir et qu'on n'est jamais heureux, là je voudrais plutôt parler de la joie passive. J'ai déjà évoqué rapidement cette idée, je voudrais la développer un peu ici, à propos de Spinoza. C'est qu'il y a dans la joie deux types de joie. Il y a des joies vraies et des joies fausses. On dit souvent « j'ai eu une fausse joie ». Et les fausses joies, effectivement, sont très importantes. C'est-à-dire qu'on a très souvent des fausses joies et moins souvent des vraies joies. Et encore une fois, l'auteur qui nous aide le plus à comprendre la distinction entre les vraies et les fausses joies, c'est Spinoza, et je voudrais un tout petit peu creuser cette question. Spinoza nous explique que la joie, c'est une émotion, elle est toujours liée à une idée. Il y a toujours une idée qui accompagne une joie. Ce qu'il appelle une idée au sens large, c'est une représentation, une imagination, une croyance et tout simplement une idée aussi qui peut venir évidemment de la raison. Mais la joie est toujours accompagnée d'une représentation, une idée. Et si cette idée est erronée, ce sera une fausse joie, ce qu'il appelle une joie passive. Si cette idée est juste, est adéquate, selon Spinoza, c'est les mots qui sont les plus précis, inadéquate et adéquate, parce qu'il parle pas de vérité métaphysique, mais de vérité concrète. Et donc, cette vérité concrète, il l'appelle adéquate ou inadéquate. Et donc, lorsque nous avons une joie, une émotion de joie qui est liée à une idée adéquate, c'est une joie active. C'est-à-dire, c'est une joie profonde, parce que fondée sur quelque chose de vrai, et qui est appelée à durer. Et lorsqu'on a une joie qui est liée à une idée inadéquate, donc quelque chose d'erroné, c'est une joie passive, et c'est une joie qui ne durera pas, et Spinoza nous dit, elle se transformera tôt ou tard en tristesse. Alors, je vais donner quelques exemples, parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement vrai et intéressant. Par exemple, exemple type de joie passive, le supporter de foot. Je suis un supporter de foot, donc je sais très bien ce que c'est. Bah, le supporter de foot, la joie qu'il a lorsque gagne son équipe, c'est une joie passive, c'est-à-dire c'est une joie qui n'est pas liée à une idée vraie, mais à une idée erronée, inadéquate, c'est-à-dire une projection imaginative qui fait que je m'identifie à une équipe de foot gagnante. Et puis, le jour où cette équipe à laquelle je m'identifie, ce qui est un processus imaginatif, il n'y a rien de très rationnel, lorsque cette équipe gagne, je suis dans la joie, mais lorsque cette équipe perd, je suis dans la tristesse. Donc on passe très facilement de la joie à la tristesse en fonction, effectivement, de l'évolution du score du match. Autre exemple beaucoup plus répandu, universel et qui parle à tout le monde, c'est dans l'amour, dans la relation amoureuse. Spinoza définit l'amour, et je pense que cette définition est extraordinairement juste et concise, comme une joie liée à l'idée d'une cause extérieure. Une joie liée à l'idée d'une cause extérieure. Ça veut dire que, l'amour n'est pas simplement relié, c'est pas une émotion de joie qui est reliée à la personne qu'on aime. C'est relié à l'idée qu'on a de la personne qu'on aime. Et si cette idée est juste, on peut être dans une joie active. Si on connaît vraiment l'autre, si la connaissance qu'on a de la personne est totalement vraie, à ce moment-là, la joie sera profonde et durable. Mais si cette idée est fausse parce qu'elle est liée à des projections, à de l'imagination, à des désirs, quelque chose qui n'est pas vrai, c'est une joie passive. Et c'est, Spinoza nous dit, la plupart du temps, nous nous lions aux autres, nous aimons les autres dans des joies passives parce que nous commençons par les connaître encore une fois, par l'imagination que nous avons d'eux, ce que nous projetons sur eux, ce que la psychanalyse a parfaitement démontré au XXe siècle. Freud a très bien montré à quel point, quand nous rencontrons quelqu'un, nous le rencontrons toujours à travers nos affects et nos projections. Donc, nous projetons sur les personnes ce que nous imaginons d'eux. Si j'attends le prince charmant, ben, dès que je vais rencontrer quelqu'un qui est pas trop mal, pas trop bête et qui correspond un peu au profil que j'avais en tête, je vais imaginer qu'il a toutes les qualités que j'attends du prince charmant. Et puis, 6 mois plus tard, on va dire, il y a eu erreur sur la marchandise. En fait, non. Je me suis tout simplement illusionné parce que j'ai bien voulu croire ou entendre ou comprendre quelque chose qui correspondait à mes attentes inconscientes. Donc Spinoza a tout à fait raison, nous commençons par rencontrer les autres avec des idées, qui sont souvent des a priori, des préjugés, et ces idées sont marquées par nos affects, par nos désirs, par tout ce qui s'est passé dans notre petite enfance. C'est pour ça que j'ai un ami psychanalyste qui dit que quand deux amoureux se retrouvent dans un lit ensemble pour la première fois, il y a 8 personnes dans le lit. Il y a les deux tourtereaux, il y a leurs 2 parents respectifs et la plupart du temps leurs anciens conjoints. Donc évidemment, il y a tous ces inconscients qui sont ensemble, et qui créent énormément de projections. Il faut du temps pour se connaître. On dit l'amour dure 3 ans. Je dirais l'amour passionnel, c'est-à-dire illusoire, dure effectivement entre 6 mois et 3 ans. Et après, quand on connaît vraiment l'autre, eh bien, soit on se quitte. C'est-à-dire que c'est comme dit Spinoza, la joie passive s'arrête et ça devient de la tristesse. Et Spinoza nous dit d'ailleurs, dans le domaine de l'amour, lorsque on quitte la passion, c'est-à-dire la joie passive, on est soit dans la tristesse, soit dans la haine. C'est-à-dire l'inverse de l'amour. Et après s'être adoré, on se déteste. Et on voit malheureusement ça chez un certain nombre de couples. C'est parce qu'ils étaient totalement dans l'illusion et qu'ils s'en veulent après. Et puis, soit on connaît l'autre, donc on fait la découverte réelle de l'autre, et donc soit ça se transforme en séparation et en tristesse, soit ça se transforme au contraire en joie active, parce que on aime l'autre tel qu'il est et pas tel qu'on aurait aimé qu'il soit. Et c'est cette puissance de l'amour qui fait qu'on peut effectivement grandir dans la joie, parce que on est vraiment dans la réalité. On n'est pas dans l'illusion, on n'est pas dans l'imagination, on n'est pas dans la projection. C'est la présence qualitative de l'autre avec ce qu'il est, avec ses limites, avec ses imperfections, avec ses défauts, mais aussi avec ses qualités, avec son potentiel, avec tout ce qui nous touche, nous émeut. Et c'est cet amour du réel qui crée la plus grande joie. Donc c'est très intéressant, parce que Spinoza lie finalement la joie active, la joie profonde, à la vérité, c'est-à-dire à une connaissance vraie du réel. Alors qu'il lie la joie passive à une compréhension erronée du réel. Et je crois vraiment que c'est une distinction extrêmement importante qui nous permet de comprendre que dans nos vies, nous avons des joies passives tout le temps, tant que nous n'avons pas des idées adéquates sur tout, ce qui est quasiment impossible. Et puis nous avons des joies actives lorsque nous connaissons bien quelque chose ou quelqu'un qui nous met dans la joie.
Je rappelle que cette émission est podcastable pendant 1 an et réécoutable pendant 1000 jours sur notre site. Je vous souhaite un excellent dimanche à tous.